RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. On est en plein play-off et donc on a une nouvelle Dream Team spéciale play-off. Fred Weiss, Stephen Brun et Nicolas Paolorsi.
Salut Nico. Pierrot.
Bonjour.
Nico, bienvenue Nicolas.
Salut les amis.
Nico, on l'a pris du podcast F1 et on l'a mis dans le basket. Je sais pas si ça a marché.
Ça n'a rien à voir.
Mais en fait, Nico,
ça va être lamentable.
Nico Paolorsi s'est rendu compte que le hand était vraiment un très petit sport. Personne s'intéressait, il s'est dit bon, je vais quand même changer de sport co pour avoir un peu plus de visibilité.
J'en avais marre des sports de niche.
Voilà.
Alors, c'est toujours un spécial play-off, l'Est pour commencer, l'Ouest en suivant, et puis dans la partie historique, vous allez me raconter une sous-performance en play-off. Alors, il y en a quelques-unes. Hein. Des mecs qu'on attendait qu'on choquait, il y en a.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Oui.
Certains auraient pu dire avant la nuit qu'on vient de vivre, Donovan Mitchell. Mais là, non. On peut plus. On peut plus.
Difficilement.
On va en parler. La perf de Donovan Mitchell, de l'impression assez fascinante des New York Knicks qui ont gagné très facilement contre Philadelphie en mettant 140 points pratiquement à chaque match. Impressionnant.
Bravo.
Impressionnant.
C'est impressionnant.
Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, mais c'est impressionnant.
Pour l'instant, c'est impressionnant.
Mais ceux qui sont très impressionnants,
oui, il y a encore
c'est
plus
évidemment
impressionnant.
Okay, si. Et puis il y aura un petit quiz pour finir et pour que Fred parte énervé de ce podcast. Allez, c'est parti.
This Eastern Conference semifinal at two games apiece on the back of Donovan Mitchell's 39 second half points.
Sensational effort from Donovan Mitchell and his team.
To me, Cleveland has the most talent in the Eastern Conference if they play.
And the Knicks fans on their feet, a standing ovation, a dominant performance once again.
For the second consecutive season, the Knicks will advance to the Eastern Conference Finals. A sweep completed here in Philadelphia.
Alors, les playoffs à l'Est, il y a deux demi-finales totalement différentes. Une très serrée et assez indécise entre les Pistons et les Cavaliers, 2-2 désormais. Et puis, les Knicks qui ont sweepé les Sixers. Alors, pourtant, les Sixers avaient quand même été vraiment bons face à Boston, même si Boston s'est déchiré sur certains matchs à 3 points. Mais on attendait les Sixers à un autre niveau quand même, Fred, face aux
Knicks. Oui, bien sûr. Mais après, on savait aussi que c'était dépendant de l'état de forme de Joel Embiid. C'était dépendant de beaucoup de choses. Il fallait être très bon, très performant, parce qu'on sait que le 5 majeur du côté des Sixers, c'est bien, mais que le banc, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que tout simplement les Knicks sont très forts
très
défensivement,
fort, hein.
Ils sont très forts et ils se mettent, en fait je le dis à chaque fois, mais c'est ce type d'équipe qui se met en confiance en attaque quand ils attaquent bien, quand le ballon circule bien, quand on sait bien qui est le patron, et on sait qui est le patron, c'est Jalen Brunson, et ben d'un seul coup ça défend mieux, c'est plus agressif, c'est plus dur, et pourtant ils ont manqué Anunoby qui était le meilleur joueur, malgré le fait qu'il ait raté ce match, ben ils ont quand même été forts. Je suis très impressionné par ce que propose cette équipe. Mike Brown aussi, hein, parce qu'il était un peu dans le doute. Je pense qu'il se posait des questions un petit peu de savoir ce que ça allait pouvoir donner. Et puis, tu as des mecs qui sont sortis un peu de nulle part. Chamette, par exemple, qu'on n'attendait plus vraiment à ce niveau-là, qui te fait des matchs plutôt très corrects. Moi, je suis honnêtement, je misais pas un.
Est-ce qu'on peut être champion par l'attaque? Est-ce qu'on peut vraiment gagner par l'attaque? C'est
non, une question. Mais comme ça les met dans des conditions de mieux défendre, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas.
Okay. Ouais. Steve, t'es impressionné par ce que fait New York?
Bah, écoute, je suis déjà très déçu. Je suis en colère contre les Celtics, puis qui, je pense, ont tout chamboulé dans cette conférence-là en faisant un match au 7 Qatar. On va pas revenir là-dessus. Et les Celtics qui n'ont plus la kryptonite à Joel Embiid, qui était alors Ford, ils l'ont plus, donc ils ont mangé ses verres face à Joel Embiid. Écoute, les Knicks. Bravo Mike Brown, il a compris ce que c'était, il a retrouvé son poste de coach de basket Mike Brown, il a décidé de refaire des décisions, de faire des rotations, puisque les Knicks jouent à 10, hein, cette demi-finale de conf, il y a 10 joueurs qui sont impliqués, ce qui est plutôt rare hein, dans le concept des préceptes des Knicks, que ça soit avec...
En même temps, au départ, il était venu pour ça,
oui,
il l'avait oublié à un moment, et puis là, sur les playoffs, il s'en rappelle.
Donc là, il a impliqué Chamette, Alvarado est bon, Jordan Clarkson joue, Mitchell Robinson joue, mettre 4-0 aux Sixers, alors on connaît la problématique des Sixers, hein, Joel Embiid a loupé un match et un autre il était en travers, mais c'est très fort. La façon de jouer des Knicks a considérablement évolué par rapport à la saison régulière, où pour moi c'était une équipe qui était exécrable à regarder jouer. Drip, 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 drip de Brunson, et puis on regarde ce qui se passe. Là, il y a un passing game qui est quand même totalement différent. Ils ont arrêté
Karl-Anthony Towns, il y est pour beaucoup.
Karl-Anthony Towns qui est
a été remis au centre du jeu, un peu une manière de Draymond Green, c'est-à-dire il touche beaucoup de ballons et il fait des choix d'orientation de jeu très bons. Il est à 8 passes de moyenne sur la série contre les Sixers, c'est ça aussi, c'est une clé en plus pour les Knicks. Et puis ça leur permet de ce passing game, d'avoir des mecs en bout de chaîne qui mettent des tirs. Ils ont mis 24 tirs à 3 points sur le match 4, c'était n'importe quoi. Donc bravo aux Knicks, les Sixers, voilà, énième déception pour Joel Embiid, qui en conf d'après-match.
Tu fais plus confiance au process, là ?
Non, terminé le process, ça fait longtemps qu'il est terminé, mais Joel Embiid qui a eu des mots un petit peu durs sur son management, en disant qu'ils n'avaient jamais compris dans le vestiaire, ils avaient très mal vécu le trade de Jared McCain dont on parlera avec OKC. Et Joel Embiid, il dit comment on peut trader ce mec-là contre rien, en fait, contre des tours de draft, des deuxièmes tours de draft et un premier tour de draft. Et on voit que McCain était un bon joueur, donc écoute, New York, avec l'absence de Boston, ils ont peut-être une tête à retourner en finale NBA, hein, c'est
oui, ça ressemble beaucoup.
Tu sais qu'ils ont gagné leur match depuis le début des playoffs, les Knicks, avec 19,4 points d'écart sur les 10 matchs des playoffs, sachant qu'ils en ont perdu deux quand même.
Ouais. Ils étaient menés 2-1 et depuis ils ont quasiment plus perdu un match.
C'est le deuxième plus gros écart de l'histoire, l'écart le plus important de l'histoire quand même. Alors on sait que le basket évolue, que maintenant il y a beaucoup plus de possessions, ça shoot beaucoup plus, mais c'est quand même une stat qui est assez parlante. Ça veut dire que c'est un rouleau compresseur. Et je crois que pour moi, le symbole de tout ça, c'est Karl Anthony Towns. Il fait des playoffs magnifiques. On l'a toujours catalogué un peu comme le big man qui était le moins fort à la passe. Et là, il a des stats fabuleuses. Mais Mac Brown, sur ça, il a réinventé un peu le jeu des Knicks par rapport à Thibodeau l'année dernière. Donc, ils sont plus forts que l'an dernier, selon moi. Tu vois, plus complets, avec cette rotation à 8-9 et avec un temps de ce niveau-là.
Sans Anunoby, qui est le deuxième meilleur joueur de l'équipe.
Ça prend 3 points.
Et surtout, on a retrouvé Mikal Bridges.
Oui.
Mikal Bridges, qui avait complètement disparu des radars, qui n'était vraiment pas dans le coup, qui avait même, sur un ou deux matchs, pas joué quasiment la deuxième mi-temps. Là, tu l'as vu, il a mis des shoots vraiment décisifs. Et c'est important d'avoir un Mikal Bridges en forme, évidemment.
J'avais Nico Palor, c'est important sur les stats.
Bien sûr.
Chiffres.
Si tu regardes l'autre demi-finale, il y a un match-up qui leur convient mieux ou ils peuvent détruire tout le monde ?
Je pense qu'ils peuvent battre tout le monde.
Moi, je pense qu'ils peuvent battre tout le monde. Après, objectivement, je pense que les Cavs, ça peut être chiant parce que tu as deux big men et que, à la limite. Mais ils peuvent battre tout le monde, clairement.
C'est-à-dire plus le profil intérieur solide qui vend.
Voilà, ça peut-être. Mais en même temps, ils ont les capacités de stopper.
Avec Jared Allen qui retrouve un peu des couleurs.
C'est ça. Mais par contre, sur les postes extérieurs, ils ont de quoi défendre sur Donovan Mitchell, oui. Ils ont de quoi défendre sur Harden. Donc, je sais, honnêtement, c'est difficile à dire. Après, comme je suis un big man, j'ai envie de dire que c'est les big men qui peuvent les embêter, mais réellement, je ne suis pas certain.
Steve ?
Ouais, alors... Est-ce que Mitchell Robinson n'est pas capable de faire la maille avec Karl Anthony Towns s'ils affrontent Mobley et Jared Allen?
On va les faire jouer tous les deux.
C'est la problématique.
Ça peut fonctionner, mais je veux voir. Quand même.
Mais point de vue offensif, le problème, c'est que s'ils sont en confiance comme ils le sont actuellement, les Knicks, alors peut-être que Détroit a ce profil défensif éventuellement sur la dureté pour leur taper dessus, pour réduire l'impact offensif des Knicks, mais ils sont partis sur une dose de confiance et puis là, ils vont pouvoir se reposer, regarder ce qui se passe de l'autre côté, parce que en saison régulière, Mike Brown a beaucoup tiré sur les mêmes garçons et là, je pense que ça va faire du bien à des garçons comme Brunson de souffler un peu, de se reposer et de préparer les rencontres. C'est important de pouvoir préparer les rencontres, mais pour moi, je vois pas de match-up ultra défavorable aux Knicks, que ce soit Cleveland ou que ce soit Détroit.
C'est la meilleure équipe en ce moment ou pas? Enfin, sinon, à part OKC, okay, si, mais sur ce que vous voyez, New York, c'est... Non, non.
À l'Est, oui.
Oui, à l'Est, oui.
À l'Est, oui.
Il ouais, n'y oui, a pas grand-chose à dire sur ça. À l'Est, oui.
Malgré tout, je pense que OKC, est la meilleure équipe de la NBA.
C'est meilleur que les Spurs, par exemple?
Non, je ne crois pas que ce soit meilleur. Et c'est pas meilleur que Minnesota.
Non.
Et c'est pas meilleur que Minnesota?
Ouais, je suis d'accord.
Ah ouais,
non. Minnesota, c'est une forte équipe, hein, Pierrot.
Non mais d'accord.
Non mais il y a beaucoup. Non mais tu fais bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah Minnesota. Non,
mec,
Minnesota c'est une vraie
équipe de basket. C'est pas de nulle part. Hein, mec.
Il est pas question de minimiser le niveau des sports de Minnesota, mais plutôt de maximiser celui des Knicks.
J'entends ce que tu dis, mais vraiment quand tu parles aux gens, quand tu leur parles de Minnesota, les mecs rigolent en fait.
Ouais.
Non, rigole pas. C'est une équipe sérieuse qui joue bien au basket. Au son de mousse, ça a été un ajout incroyable. T'as des joueurs qui sont sortis de New Terrence Shannon. Là, moi, je suis désolé, je connaissais presque pas, qui est devenu un joueur quasiment incontournable pour Minnesota.
Ils ont ressorti du formol Mike Conley.
Mike Conley qui rejoue.
Non, et puis les Knicks, t'as un truc, c'est que les Knicks, mine de rien, t'attends de voir une adversité quand même du niveau d'une équipe de l'Ouest face à eux. Parce que, ok, ils perdent quand même deux matchs contre les Hawks.
Oui.
Hein, c'est pas non plus, tu vois, l'équipe ultra dominante à l'Est. Et là, tu joues des Sixers qui sont avec un Embiid un peu diminué, un peu bouilli. Et des Sixers qui sont à leur place et qui peuvent pas aller bien plus haut, tu vois.
Les Sixers, il faut tout détruire et tout reconstruire, non ? C'est tout dénier. Ça fait des années. Moi, je pense autour de Maxi, quoi.
Je pense qu'il faut arrêter avec Joel Embiid.
Bah oui, bien sûr.
Je pense qu'il faut donner les clés de l'équipe à Maxi et
Edgecombe.
Ça veut dire quoi? Trader Joel Embiid?
Trader Paul George déjà.
Joel Embiid, il y aura beaucoup de gens intéressés, mais en même temps, avec ses blessures, c'est compliqué.
C'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, quand il est sur le terrain, il est incroyable.
Oui.
Mais avec ses blessures.
Mec, c'est bon, on a compris, non? Au bout d'un moment, on va pas.
Ouais, mais qui va se positionner? En fait, sur le papier, il y a un intérêt. Mais à combien?
Il y avait le 3 pigeons.
Les pigeons, les Kings.
T'as un pigeon dans la gorge.
Il a dit qu'il avait plus mal au genou. C'est un des quand même des moments forts
la
compte
d'après match. Mais il aura de toute façon mal quelque part.
Il a dit je pense qu'on a trouvé une solution pour mon genou. Donc voilà, physiquement il se sent mieux. Ça peut être aussi, tu vois, t'es le board des Sixers, le front office,
t'y crois encore,
ça.
Non, j'y crois. T'es encore dans la naïveté, toi.
J'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut essayer de le bouger et de construire autour de Maxi Edgecombe. Mais comment tu vas faire pour le bouger avec ce contrat-là? Qui franchement met l'oseille sur Embiid là maintenant?
Mais je te dis, sur le papier il y a des gens intéressés, mais le problème c'est que pas à ce prix là quoi, pas à ce tarif là évidemment.
Le problème c'est que le contrat il est signé.
Ah, oui, c'est ça.
si on passe à l'autre demi-finale, donc Pistons Cavaliers, il y avait sur le papier avantage Détroit, mais gros match quand même des Cavs pour revenir à 2-2.
C'est pas ce qu'on avait dit, c'est que dès que ça se déplace les Cavs c'est incapable de gagner. Mais à la maison, ils sont capables d'être un petit peu meilleurs. Alors là, effectivement, il y a ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell sur la deuxième mi-temps. Mais James Harden est meilleur quand il est à la maison. Tout le monde est meilleur, tout le monde est plus agressif. Ben voilà, on est à 2-2 et manque de peau. C'est l'avantage du terrain, c'est ouais. Pour Détroit. Hein.
Et Détroit loupe le coche, je pense, sur le match 3, parce que je pense qu'ils peuvent le prendre, oui. Le match 3. Ouais. Alors James Harden fait un money time énorme alors qu'il passait totalement à travers de cette série. Et puis Kate Cunningham, les trois ballons que perd Kate Cunningham dans le money time
de
du match 3.
Quasiment, là, ouais.
De suite, une ouais. Remise en jeu dans les mains de Max Truss, un pick and roll où il jette la balle. Et après, il envoie une passe à 0 degré en tribune. Quand il reste une minute à jouer et que tu as un money time et que tu perds trois ballons de suite, forcément, tu t'exposes au talent de James Harden qui est redevenu James Harden sur Delizio.
Ouais, mais qui perdra lui-même trois ballons dans le Money Time au prochain match.
Peut-être.
Il faut un concours entre les deux.
Il a été très bon la nuit dernière. Et la nuit dernière, le 5 majeur de Détroit passe totalement au travers. En fait. Totalement au travers. Jalen Duren a disparu de la circulation.
Il faut balancer une alerte enlèvement, lui, depuis le début des playoffs.
42% pour un big man qui prend que les tirs à 5 cm du cercle. C'est triste à mourir. Kate Cunningham hier.
Tu es en train de me dire que le meilleur big man de Détroit, c'est Paul Reed?
Non, mais ça veut dire
pour mettre des points.
Là,
oui. Pour mettre des points.
Peut-être là que va finir Joel Embiid.
Ouais, carrément.
Bah pourquoi pas.
Ouais, mais là, on voit qui, on voit tout le monde. Hein.
Mais hier, Détroit est encore devant à la mi-temps. Après, ils prennent un 24-0 parce que Kenny Atkinson décide à un moment donné de d'arrêter les conneries et d'arrêter de jouer compressé, de donner un peu d'espace et surtout avoir de la relance. Et Donovan Mitchell sur le open court, il a été monstrueux. Il fait une paire full time hier, Donovan Mitchell. Hein, 39 points en deuxième mi-temps.
Mais il égale quoi?
C'est une paire full time. Il égale Sleepy Floyd, baby.
C'est-à-dire que nous, on vous fait des sujets en avance, tellement on est bon. Quoi. Mais c'était Sleepy Floyd. Ça devrait être le sujet d'aujourd'hui, mais on l'a déjà fait.
Mais, oui. Mais ça sent le match 7, ça.
Ça sent le match 7.
Chacun va gagner chez lui.
Et qui va l'emporter au final?
Détroit, là.
Mais après, ouais. Juste une petite parenthèse sur Cunningham, parce que c'est un super joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai toujours un petit souci avec lui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets quand même. Beaucoup de pertes de balles.
C'est le seul
des soirs où ça rentre pas.
Il n'y a personne d'autre.
T'as que lui.
Non, mais ça,
Pierrot, t'as que lui. Le ballon doit passer par lui.
C'est possible, mais si tu veux être champion NBA, peut-être il manque un truc, quoi.
Bah, il faut un petit peu mieux l'entourer. Il faut mettre un autre créateur. Moi, je suis d'accord avec le ballon tout le temps dans les mains.
Parce qu'autour de lui, il n'y a que des mecs qui sont des finisseurs. Tobias Harris fait une campagne de play-off qu'il n'a jamais fait de sa carrière. Il est très bon, mais ce n'est pas un mec qui va mettre le ballon au sol et qui va créer pour les autres.
Tobias Harris, qu'on aurait pu mettre dans le
Talk 3,
d'ailleurs.
Aussi. Duncan Robinson, qui est un catch-and-shooter à 3 points. Donc lui, il a zéro création. Ozar Thompson, il n'est pas un créateur non plus. Donc tout repose dans la création, dans les mains de Kate Cunningham. Et donc parfois,
qui prend le relais de temps en temps.
Mais il est là pour mettre des pantons, c'est pas non plus un énorme créateur passeur. Donc Cunningham, il a beaucoup de pression, il est ciblé par les défenses sur les pick and roll, ils lui font lâcher la balle et la rotation derrière.
Et sa relation privilégiée normalement c'est avec Jalen Duren, et Jalen Duren n'existe pas, donc c'est compliqué pour lui quand même.
Et hier Mobley est très bon. Mobley fait un match de très haut niveau, alors il met que 17 points, mais il fait 5 contres, il fait 5 passes, il est monumental défensivement et la comparaison de Jalen Duren souffre énormément de la comparaison.
Mais quand tu vois les stats, moi c'est ce qui m'a impressionné le plus en fait, les Pistons, c'est une équipe qui met énormément de comptes, qui était leader pendant longtemps des comptes, ils n'en mettent que 3, c'est-à-dire que dans l'agressivité, dans la dureté, finalement, c'est les 4 qui ont été meilleurs, et Mobley, tu as raison de le dire, 5 contre.
Après, qui est le plus fiable? Parce que, quand même, je chambrais sur Harden tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a vu des dingueries depuis le début de cette série, entre Cunningham là...
Sur les deux premiers matchs, Harden est catastrophique. quand ils sont menés 2-0.
Est-ce qu'ils sont fiables, ces mecs, pour des vraies séries de playoffs? C'est une vraie question. Hein.
Moi, je pense que Harden, il est en train de monter en puissance, ça va mieux. Il perd que deux ballons sur le dernier match. Je pense que le match 3 l'a remis en confiance sur ce moment où il met 7 points de suite. Je pense qu'il peut devenir dangereux, vraiment.
Il est potentiellement très dangereux.
Non, mais je veux dire, il peut devenir dangereux dans des moments compliqués, dans des moments où tu peux faire bouger le match.
Le facteur X, pour moi, c'est Cunningham. Si Cunningham garde ce niveau-là, je vois bien les Pistons s'imposer en 7. Après, si tu arrives à trouver des adaptations défensives, à le stopper un petit peu dans le quatrième quart et tout ça, et à limiter cette circulation de balles, et si Duren reste le Duren là qu'on connaît, ça va être compliqué pour Détroit. Je vois pas comment les Pistons peuvent passer avec un Jalen Duren à ce niveau-là.
Parce que l'air de rien, les Cavs ont presque un effectif plus fourni. Quoi.
Oui, bah oui, c'est ça.
Schroeder,
ah
bah oui, qui sort du banc.
Max Strus qui Max a fait des bons matchs aussi. Alors il a un peu moins brillant.
Wade, Sean Merrill, des mecs qui peuvent rentrer pour mettre des paniers. Ils ont tout ce qu'il faut en magasin, les Cavs. Maintenant, ils ont pas l'avantage du terrain.
Ouais. Bon, on se souvient que l'an dernier, c'était la meilleure équipe à l'Est quand même avant d'exploser complètement. Et c'est une équipe, bon, c'est sûr qu'il y a Harden. En plus, quand même.
C'était Darius Garland l'année dernière.
Mais oui, bon, je pense pas qu'ils aient perdu au change vraiment, hein, quand même.
Bah, le problème, c'est que le projet, quand tu fais venir Harden, le projet, c'est là, c'est tout de suite.
La fenêtre de tir, elle est beaucoup plus courte, oui. Hein, par contre.
Alors, Garland était un peu pété l'année dernière.
On a fait le tour à l'Est. Vous avez tout dit ou vous en avez encore dans la besace?
Non, je crois qu'on a
tout
dit.
C'est bon, besace vidée, alors on passe à l'Ouest.
There's the buzzer and the Thunder have won and swept and are headed to the Western Conference Final.
After review, there is wind-up impact and follow-through above the neck of an opponent.
It is unnecessary and excessive in contact by Wembanyama.
It meets all the criteria and has been upgraded to a flagrant foul penalty 2.
Game 4 to the Timberwolves. Series tied at 2 apiece.
Alors, à l'ouest, là aussi, on a deux demi-finales très différentes avec un sweep d'OKC sur les Lakers et une série indécise entre les Timberwolves et les Spurs. On va démarrer par le Thunder. Tu disais avant, quand on préparait ce podcast, Steve, les Lakers, ils font le match parfait et ils le perdent quand même.
Bah, quasiment,
au match 4.
Hein. Quasiment le match parfait, en prenant en compte que Luka Doncic n'a pas joué un match de playoff et que dans sa conférence de presse de Luka Doncic hier, il dit qu'il était très loin de rejouer un match NBA. Donc il aurait fallu peut-être que les Lakers aillent en finale NBA pour éventuellement revoir le Slovène. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Hier, ils font un match à l'ego, à la fierté, à l'orgueil, à domicile. Ils n'ont pas envie de se faire sweep. Tout le monde est très bon. Hashimura fait un match d'exception. Austin Reeves est à son niveau. LeBron James est très correct, même si je pense qu'il choque un peu dans le money time sur ce tir à deux points, sur ce drive à 20 secondes où il rate. Mais en faisant un match quasi parfait, tu n'y arrives pas parce qu'en face, c'est trop fort. En face, c'est trop fort. Shea fait son meilleur match de la série. Et puis, Adjei Mitchell, qui est ce garçon? Qui est Adjei Mitchell? Comment sa transformation d'Adjei Mitchell, elle est complètement dingue. Donc.
Franchement, étant donné qu'il est belge, on ne peut pas un peu le naturaliser.
Ouais, on l'a fait avec Mitchell. Mais Mitchell, aujourd'hui, c'est Jalen Williams. Parce qu'on rappelle que OKC joue son Jalen Williams, qui est censé être le deuxième meilleur joueur. Hier, il met 28 et il fait des trucs de go-to guy, en fait, des isolations pour lui sur des 1 contre 1. Et puis, les deux tours, Hartenstein, Chatton-Graham, ils ont une relation, les deux. Hartenstein est à mon passeur, toutes les passes lobées, les avantages de taille, parce que quand LeBron joue 4, il y a quand même 20 cm d'écart.
Sur la fin, le alley-oop qu'il envoie, il est quand même un poil risqué.
Il est risqué, mais il se dit, il y a 20 cm d'écart, je vais la mettre en l'air, je vais voir ce qui se passe, et l'autre l'attrape.
Heureusement qu'il est très bon passeur, parce que tout le monde l'a fait passer.
Exactement, et puis Shea est un distributeur, alors il génère beaucoup de choses dans le jeu, mais les Lakers ont essayé sur le pick and roll de venir le chasser pour le faire forcer à lâcher la balle, mais ils trouvaient des mecs, et ça met dedans. Jared McCain, il a 3 tirs ouverts à 3 points. Il met dedans Lou Dort, met des tirs à 3 points. C'est indéfendable. Ils n'ont pas perdu un match des playoffs. Défensivement, ils sont présents parce qu'eux, ils tapent. On va parler des Wolves, mais OKC, ils tapent fort.
Ils ont Lou Dort, hein, déjà.
Oui, et elle est effrayante, cette équipe.
Ouais. Mitchell, 28 points. Ouais. Je vous donne les cartons de Mitchell sur la série. 28, 24, 20, 18.
Et Jay Mitchell, c'est notre Nicolas Pollorsi, c'est le mec qu'on n'attendait pas, mais il est là, il stat.
Un peu plus jeune que moi, plus de potentiel,
petit,
je pense même.
Petit.
Un peu plus athlétique, peut-être.
Je préfère à Jay Mitchell.
Non, mais après, est-ce que c'est des mecs, est-ce qu'ils ont été géniaux dans le recrutement, ou est-ce que c'est des très bons joueurs qui se subliment dans un collectif ou tout?
Il y a un peu de tout, je pense. Ils ont été géniaux dans le recrutement, mais il y a une académie de jeu, il y a une façon de jouer, il y a une hiérarchie, et il y a le fait que Shea soit le big boss. En fait, il explique ce que tout le monde doit faire. À chaque fois qu'il y a un mec qui sort du banc, moi, je pense toujours à Jalen Williams. Jalen Williams, pendant quelques mois, il a, enfin, pendant un mois, il a été fantastique. Mmh. C'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel, mais qu'on voit pas jouer parce qu'il y a des joueurs encore plus forts devant. Ouais. Honnêtement, on en parlait. Hein. Moi, je me rappelle qu'on en avait parlé avec Steve. On avait dit à Jim Mitchell, attention, c'est le mec qui peut prendre le relais de Jalen Williams. Et ben, il est en train de le faire.
Deuxième tour de draft, hein, Fred.
Ouais,
hein.
Ouais, mais
en 2024, 38e. Hein. Tu vois, c'est le mec que t'attends pas, hein, à la base.
C'est un mec basketteur.
Hein, il venait d'où, lui?
Université. Il a fait six mois
à Nanterre en espoir, en U21. Moi, j'ai joué avec son père, Barry Mitchell, qui est décédé il y a pas longtemps. Et il a joué 6 mois en espoir. Après, il est reparti en Belgique. Et après, il est parti à la fac au States.
Il a un parcours assez particulier. Mais moi, je pense que l'académie, l'intelligence, je pense qu'on choisit à l'intelligence du côté de Casey. Et ça paye.
Et puis, il n'y a pas que lui. Enfin, Caruso, il est très bon. Ouais. Et puis, t'as encore des mecs, comme Fred l'a dit, qui ne jouent pas parce qu'il y a des mecs qui sont meilleurs. Mais Cason Wallace, tu le mets sur un terrain basket. Dans l'académie de jeu, il va mettre dedans sur le
tir. En fait,
ça reste des bons joueurs parce que si on te met toi à OKC, tu mets pas 28 points. Pierrot, je suis désolé, mais
toi, pas dit, moi je pensais que t'allais attaquer Nico, mais tu viens jamais.
Pierrot, tu le laissais tranquille. Ça reste une base à la base, c'est des bons joueurs de basket, mais qui sont sublimés par le collectif d'OKC, par Shea met le ballon au bon endroit, ça lie les bonnes rotations défensives et les mecs sont dedans. Et après, t'as une confiance exceptionnelle quand ils font la passe, ils sont
bien sûr.
Tu te dis, lui il va filocher, ils savent que les mecs vont filocher et ils mettent dedans et c'est, mais ils vont se reposer.
Et qui peut les arrêter alors? Qui a le profil?
Personne.
Personne.
Qui peut les freiner un petit peu théoriquement les Spurs.
Oui, ils freinent un petit peu, mais
ils sont sur une autre matrice là. Tu sens quand même que là.
Non, mais bien sûr. Ne me prenez pas. Je suis pas en train de dire qu'ils vont les battre. Je dis simplement si on parle de freiner, la seule équipe sur le papier qui puisse les freiner, c'est les Spurs.
La seule équipe qui peut gagner un match déjà, parce qu'il y a personne à gagner un match encore contre eux. Ils sont à 8-0, ces cochons.
C'est vrai.
Ils peuvent gagner le titre en perdant 2-3 matchs, quoi. En gros.
Je crois que ça n'a jamais été fait, un titre en faisant que des sweeps. Je pense que ça n'a jamais été fait.
Ça n'a jamais
été fait. Que des sweeps, je pense que je vais vérifier.
Je crois que les Warriors n'ont pas perdu beaucoup à un moment donné sur un titre.
Jusqu'à la finale normale, ils n'avaient pas perdu de match. Mais après, ils en ont perdu au moins, je crois. Ouais. Donc,
mais bon, ils sont partis pour un back-to-back.
Quand on regarde l'autre demi-finale, donc,
c'est la plus intéressante.
On a l'impression quand même qu'il y a un petit avantage côté Spurs. C'est que le 2-2, il est, je ne vais pas dire miraculeux, mais bien aidé par l'expulsion de Victor, quand même.
Oui, mais même, regarde, sur le premier match, si les Spurs gagnent, c'est pas un scandale non plus, parce qu'ils ont un shoot qui est correct. Les deux matchs suivants, surtout sur le match suivant, le deuxième, ils leur mettent une rouste fantastique.
Ils ont fait bien. Il est mérité.
Et en fait, effectivement, ils perdent sur le match où Wemby joue très peu et forcément, ça change.
Et encore, ils sont devant longtemps.
Non, mais même s'il y a une très bonne équipe aux Spurs, à la fin du match, quand t'as pas ton gars de 2m25 qui compte tout le monde et qui forcément, c'est compliqué.
Ça change tout. Et mine de rien, quand Victor se fait expulser, les Spurs. D'Aaron Fox est très bon deuxième, troisième quart-temps. Après, il disparaît dans le quatrième quart-temps. Dylan Harper fait encore une fois une presta en sortie de banc de très haut niveau. Luke Cornett donne des très bonnes minutes. Il est plutôt bon.
Finch a dit ça n'a rien changé. Luke Cornett a pris le rôle de
Chris Finch. Mais oui, Wemby expulsé, c'est le jour et la nuit pour les Spurs. Ça reste une bonne équipe. Et j'espère vraiment, parce qu'on va revenir quand même sur ce geste de Victor Wembanyama. Qui ne sera pas suspendu, ni d'amende.
De ce qu'ils ont dit, c'est que Cham a dit que c'était bon.
Oui, il n'est pas suspendu, pas d'amende. Donc, c'est-à-dire qu'il ne sera pas débité de 5 000 $. Mais
je ne suis pas sûr que ce soit ça qui le dérange le plus.
Moi, ce geste, je ne veux pas dire, c'est compliqué, les gens vont dire, mais comment tu peux dire, ça m'a plu. Le geste m'a plu. Alors, il n'est pas bien.
Il n'est pas à faire,
bien sûr, parce que ça pourrait coûter cher à Victor dans sa legacy, si on peut utiliser ce terme-là. Si jamais les Wolves battent les Spurs, on va revenir en arrière se dire que Victor a abandonné, entre guillemets, ses équipes pour un geste d'humeur. Maintenant, Minnesota, c'est vilain ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ce qu'a fait Victor va peut-être faire basculer la vision de l'arbitrage sur la suite des séries. Parce que ça fait tout un pataquès quand même, le coup de coude de Victor. Il y a beaucoup d'images qui circulent sur les fautes de Jaden McDaniels. Les mecs, ils mettent des sacoches à tout le monde, de Nasrid. Ils sont en train de saccager les Spurs. Et je pense que ça peut rebasculer la façon dont les arbitres vont arbitrer Minnesota.
Tu sais, le problème déjà, les grands, c'est beaucoup plus difficile à arbitrer. Et Victor est un garçon extrêmement grand, mais qui va très vite. Donc ils n'arrivent pas à l'arbitrer. Mais j'ai vu des actions effectivement où Rudy Gobert lui attrape le bras alors qu'il va contrer.
Mais Stéphane Cassel, il prend des fautes, mon garçon.
Ça joue
McDaniels
hyper physique.
Cassel, c'est indécent.
Mais ils ont pas d'autre choix. Hein.
Non, ils
n'ont pas d'autre choix. C'est aux arbitres de montrer tout de suite que si tout le monde doit sortir pour 5 fautes, ils vont sortir, c'est comme ça.
Son statut va l'aider parce qu'un Kidam ferait ça, il serait pris en grippe peut-être. Là,
oui, mais Kidam n'aurait pas le traitement de, infligé par Minnesota, Pierrot.
Soit, mais disons un mec qui a comment dire moins d'aura.
Tu sais ce qui se passe aussi.
Pourrait peut-être pas se le permettre.
Alors le coup est pas très joli, mais il faut se rappeler que ce garçon fait presque 2m26. Donc c'est-à-dire que quand il a les coudes un peu levés, il est à la tête des mecs. Il est
après,
pas
obligé de l'envoyer quand même.
Ou non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un d'autre,
Nico,
de
moi,
plus petit,
passerait carrément au-dessus. Ah, ouais.
Non, ça pas emmerdé. Si quelqu'un plus petit faisait la même chose, ce serait dans la
poche. Oui, il a tort.
Et donc forcément, ça change aussi l'impact.
L'image serait moins violente.
Serait beaucoup moins violente.
Mais écoute,
non, ce qui est fort, le symbole, c'est quand même que en conférence de presse après le match, t'as tout le monde qui le soutient, que ce soit, même si personne défend le geste, mais tout le monde dit que ce geste-là était nécessaire. Mitch Johnson dit limite, je suis heureux qu'il ait fait ça et de le voir se protéger. Tu sens clairement que c'est un tournant. C'est vraiment cette action-là, c'est le tournant de la série parce que ça va influencer tellement de choses dans l'arbitrage et l'arbitrage sur cette série-là, il est capital en fait. Si les Wolves ne peuvent pas défendre comme ils le font avec autant d'agressivité.
Ils ont une chance, si c'est pas un combat de rue,
exactement.
Après, on va pas tout enlever à Minnesota. C'est pas qu'une équipe de boucher charcutier. Anthony Edwards met 36 sur le match 4. Il est merveilleux. Il y a des garçons qui sont très bons. C'est une belle équipe de basket. Maintenant, je suis curieux de voir ce match 5. Je pense que Victor va vouloir faire un carnage complet. Que les Spurs
en général, il y a une bonne réponse. Répondre, il répond plutôt pas trop mal. Et rappelle-toi quand même du match 2,
oui,
où ils avaient perdu. Ils ont bien montré à tout le monde qui étaient les patrons quand même.
Un match très important.
Pierrot, pour revenir sur OKC, aucune équipe n'a terminé les playoffs invaincus. Le record, c'est en effet les Warriors. Warriors 2017, 16-1 ils ont fait. Ah, ils menaient 3-0 en finale.
C'est exactement ce que je t'ai dit. Mais
tu l'as dit ça ?
Oui,
mais je t'écoute pas.
C'est bien d'avoir quelqu'un pour vérifier.
Oui, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui travaillent avant le podcast. On n'a pas besoin d'un Nico pour.
Non, mais voilà, moi je suis là.
On a toujours besoin d'un Nico, regarde. Il y a J. Mitchell Hack qui vient te.
Mais c'est une série qui est. C'est une belle série, Spurs Wolves. Je pense que là, c'est la demi-finale la plus intéressante.
Bien sûr, évidemment.
Parce qu'elle nous concerne aussi, parce qu'il y a deux Français. Et Rudy, mine de rien, il envoie du bois sur Victor.
Rudy, il fait une très très belle saison.
Oui, il fait une belle saison. Il fait une série violente, Rudy.
C'est insolite, c'est un costaud. Ça aussi, en même temps.
Hier, c'est un podcast. Donc lundi. Freddy Fautou dans le Moscato Show nous a annoncé que Rudy Gobert, sa carrière internationale continue, qu'il n'y a aucun souci et qu'il sera là
Ça veut dire que Freddy a dû échanger avec Rudy sur son rôle parce que ça va être la première fois où Rudy va avoir un rôle totalement différent. On l'a vu sur la fin des JO Paris 2024 parce qu'on a vu que l'association Gobert-Victor, ça marche pas, et que Rudy, s'il a dit moi je suis chaud, ça veut dire qu'il est conscient qu'il va sortir du banc et qu'il aura un rôle différent
et qui sera donc le deuxième intérieur avec Victor
à Gershon.
Gershon, ça bouge pas ?
Oui, il te faut un vrai poste 4. Oui. Non, ça bouge pas.
Okay. Il y a Alex Sarr en backup. Pas mal. Hein.
Avec Sarr en backup, et on fait quoi de Moussa Diabaté
peut-être.
Ouais, bon.
Écoute, il se démerde, Freddy. C'est pas un problème, ça.
Non, mais il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde.
Parce que Mathias Lessorve, s'il retrouve son niveau, c'est aussi un joueur très intéressant. Maxime Reynaud qui arrive.
En fait, ça dépend ce qu'ils veulent. Si t'as besoin d'un mec qui prend des rebonds, qui dira rien, tu prends un Moussa Diabaté. Si tu veux un mec qui peut marquer un peu plus, tu prends peut-être un Alex Sarr.
Pour le coup, c'est vraiment pas les mêmes.
C'est pas du tout. Ça dépend ce que tu cherches.
Il faut aussi des garçons qui, dans un groupe, ne causent pas de problème. Parce que quand t'es poste 5, Victor va jouer entre 25 et 28 minutes par match. Donc il faut aussi accepter, si t'es troisième intérieur, parfois de ne pas voir le terrain. Mmh. Donc il faut aussi choisir les hommes, l'état d'esprit, pas forcément le niveau du mec.
Et Victor qui sera pas là en juillet, ça vous pose pas de problème toujours ?
Écoute, ça veut dire que les Spurs sont en finale de conférence.
Mais finale de conférence, c'est pas finale. Donc là, moi je pensais qu'il serait là, sauf finale NBA.
Écoute, manifestement, c'est pas ça. Il nous a dit que s'il gagne la série, il serait pas là sur la première fenêtre, mais il serait là sur la deuxième.
Donc ça vous pose toujours pas de problème ?
Non. Bah non, c'est plutôt logique.
Jamais quoi.
Et Lucas,
je sais que je me bats seul.
Tu te bats contre les moulins avant même.
Non, pas du tout.
Parce que moi j'ai pas. En fait, bon, je suis désolé. Je m'en fous de voir.
La priorité, il faut qu'il en fasse une.
Oui, mais il faut qu'il en fasse une.
Ou de septembre.
Ouais, mais on repousse toujours. Mais la prochaine fois, il sera là.
C'est
toujours ça le discours. La prochaine fois, il sera là. Toujours ça le discours. Depuis le début. Ouais, mais la prochaine fois, il sera là. Bah, c'est bon alors.
Non, mais il a jamais
en fait, on a un diamant brut. Il faut faire attention à lui. Prenons soin de lui.
Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais
Lucas Lontich qui fait forfait pour cette année pour la Slovénie.
C'est triste pour la Slovénie, non ? C'est dommage pour la Slovénie, non ?
Ah oui.
Moi, je ne suis pas de Tipeee. Il venait à chaque fois. Donc, OK, à chaque fois, il y a une raison. Il n'y a pas de problème. Mais je regarde et puis je constate.
Ah, mais attends, un Tipeee, il n'y avait pas le même calendrier international, on est d'accord à l'époque.
Non, mais ils n'avaient pas le même physique non plus.
Il n'y avait pas les fenêtres à l'époque.
Il n'y avait pas les fenêtres, mais ils n'avaient pas le même physique du tout non plus, surtout. Tu peux pas comparer.
Ah, Pierrot, il regarde. Non, il fera.
Tu peux comparer. Pierrot,
c'est
un petit
peu. Tu peux pas comparer avec d'1m88.
Ce que j'essaie de vous faire entendre, c'est que ce n'est qu'une question de volonté.
Non, c'est une question de
physique. Ce n'est qu'une question de volonté. Tu as toutes les raisons du monde, quand tu es une star NBA, de ne pas venir en équipe nationale.
Mais ça n'a aucun
rapport avec ça. Tu as toutes les raisons du monde de ne pas venir.
Exceptionnel. On est sur un morphotype.
Tu vois, tu m'as trouvé une raison de plus. Voilà. Tu m'as trouvé une raison de plus.
Une vraie raison. En fait,
oui,
tu te reposes après ça.
Et c'est exactement ce que je te dis.
Mais en fait, t'as envie qu'il se blesse, en fait.
Tu as toutes les bonnes raisons de ne pas venir.
Que ce soit Alors, c'est-à-dire qu'il soit très bon et puis à un moment il se blesse, il joue plus jamais.
Je te donne ma théorie.
C'est cool. Il va s'arrêter à 25 ans.
Qui que tu sois, français ou pas français, tu as, quand tu es une star NBA, toutes les bonnes raisons de ne pas venir en équipe nationale. Donc pour venir, ce n'est qu'une question de volonté.
Donc,
c'est
donc une raison physique pour essayer de ménager un corps qui est complètement différent de la normale, ça ne te gêne pas. Tu sais qu'un mètre 1m88, c'est rien du tout, hein. C'est un mec normal, basique, lambda.
Et puis, Et puis on se focalise sur Victor Wembanyama. Moi, sur la première fenêtre, fin juin, début juillet, je vais regarder si Nikola Jokic est là, je vais regarder si Giannis Antetokounmpo est là, je vais regarder aussi ce que font les autres stars NBA, Pierrot. Oui, là, peut-être, si tout le monde vient... Alors, c'est des garçons qui sont en vacances, déjà, Jokic, Antetokounmpo.
Eux, ils sont tranquilles, hein.
Eux, ils sont pédards.
Alors, d'abord, Giannis n'est pas toujours venu, mais dans leur carrière, ils en ont fait quand même des campagnes.
Ils en ont fait, mais ils ont 29 ans, ils ont 30 ans.
Quel âge, Victor ?
Oui, c'est ça, oui, c'est pour ça qu'on continue d'observer.
Mais t'es complètement fou.
Et quand Victor aura 32 ans, Pierrot reviendra. Bilan. Victor et Mayama, compétition.
Oui, mais il est d'accord. Non, à 32
ce que
ans,
j'espère.
Quoi, mais pas maintenant, en fait.
Ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'il viendra, il viendra tout le temps. Parce que sinon, bon, je serais un peu déçu.
C'est inconcevable que Victor se prive de l'équipe de France. C'est trop important pour lui, pour sa carrière. C'est trop important, la Coupe du Monde 2027 et les JO 2028. Moi, je te dis que Victor sera là sur la deuxième fenêtre pour commencer à créer une alchimie. Il sera là à la Coupe du Monde si on se qualifie, mais je pense qu'on va se qualifier. Et il sera là. Et là, par contre, il faut qu'on se qualifie pour les JO. Ça, c'est plus compliqué d'ailleurs. Parce qu'il faut être dans les deux meilleures nations européennes et il y a de la concurrence.
Et ce serait mieux qu'il joue pour qu'on se qualifie, en fait, qu'on crée des automatismes.
Oui,
ça,
c'est important. C'est important.
C'est ça, hein.
Mais bon, il y a d'autres équipes avec des superstars qui ne créent pas l'automatisme, les mecs ils débarquent pour les compétitions et ça les empêche pas de s'en sortir.
Ils ne gagnent pas tout le temps, on regarde le Canada au JO.
Oui, d'accord, mais regarde l'Allemagne avec Franz Wagner et Dennis Schröder, ils sont là pour les grandes compétitions et tout fonctionne.
C'est justement
mais
pas...
Mais parce qu'ils ont créé quelque chose depuis quelques
années. Exactement, c'est un vrai collectif l'Allemagne.
Oui, oui.
C'est justement pas une équipe d'agglomérat de stars qui arrive une fois de temps en temps quand ils ont fini... Quand ils ont fini de faire les choses importantes, c'est un peu le.
Écoute,
l'impression que ça me fait.
La grande compétition. Non, mais Victor, après, tu l'as commenté.
Tu sais quoi, moi, je pense que tout va changer quand il aura signé son contrat Max.
À 300. Et
oui, voilà, que là, on le verra en équipe de France. Vous verrez. Moi,
moi, je pense que ça. Je suis pas sûr que ce soit le
non,
point.
Bah non, il y a aucune raison.
Non, mais je pense que c'est un problème de calendrier de fenêtre.
Moi, je pense que vous êtes
naïf. Le mec, il peut pas se mobiliser tout le temps.
Vous n'osez pas toucher à l'icône parce que c'est vrai qu'il est fantastique, on l'adore.
Mais en fait, tu peux pas tirer des bilans d'un mec qui est aussi jeune. En fait, je te comprends pas.
Jeune, il en a déjà eu des occasions de venir en équipe de France, Fred.
Oui,
il n'est venu qu'au JO. Bah,
oui,
pourquoi ? Parce que c'est les JO.
Pierrot,
quand même, faut pas être naïf.
C'est la première fois que ça va être lui le vrai.
Donc sinon,
leader.
Il serait pas venu au JO si ce que tu me dis était vrai. Il peut se blesser au JO autant qu'en fenêtre. Il va jouer deux matchs.
Dis-moi quelles sont ses excuses pour les fois précédentes.
La seule vraie excuse, c'est la thrombose.
D'accord.
Où là, il n'y a pas photo, il est blessé, il est à l'hôpital. Il n'est pas à l'hôpital, mais il ne peut pas jouer.
On est quand même d'accord sur ça. Donc tu es en train de m'expliquer que sur une fois, c'est-à-dire ça, il a raté qu'une seule compétition réellement pour l'instant.
Voilà.
Une seule. Et donc tu en fais une généralité.
Non,
je
constate qu'il n'y a pas une grande. Il y a la déclaration d'intention qui n'est pas suivie vraiment d'actes. C'est tout. C'est ce que je constate. Joachim Noah, il pouvait venir, il ne pouvait pas venir. Une fois il est venu, et puis le reste du temps, il n'est pas venu. Tony Parker, Boris Dio, Nicolas Batum, je savais qu'il serait là. C'est tout. Et ça va peut-être changer, je le souhaite.
Il a fait en NBA, il devait se préparer.
Il était avec les sauts dans l'inconnu. Tout ça, c'est tout ça les bonnes raisons.
Il n'y avait pas de fenêtre à l'époque.
Exactement.
Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait que des grandes compétitions. Les mecs se qualifiaient. Donc, le problème, c'est que là, il y a des fenêtres où l'équipe de France joue plus de matchs sur les fenêtres.
Il va moins, mais c'est faux. Et Pierrot, il y a aussi une donne, c'est que Steve parlait de l'amour de Wembanyama pour l'équipe de France. C'est vraiment la première fois là depuis un an que c'est lui le leader de cette génération.
Tout ça, c'est tout ça que
je dénonce. C'est pour ça qu'il va venir.
C'est ces raisonnements que vous faites.
Non,
ça n'entre pas en ligne de compte.
C'est pour ça qu'il va venir.
Je
quand tu vois ce qu'il a construit en termes de leadership avec les Spurs, je le vois pas.
Je
le vois pas zapper des fenêtres quand il pourra venir, parce que lui, il sait que c'est important de créer cet état d'esprit autour de lui pour emmener les Bleus à quelque chose de grand.
Exactement comme toi ou quand Fred, vous me faites un raisonnement à la place de Victor, je pense que c'est là où vous vous trompez. C'est si Victor, il veut être là, il est là, et toutes ces histoires, on n'en a rien à faire. Et c'est pareil pour Giannis, et c'est pareil pour Jokic, et pour Doncic, et pour tout le monde, en fait. C'est ça le truc.
Pierrot, si dans 10 ans, Victor, je pense qu'il aura joué plus de compétitions.
Bah, bravo,
que
tant
Tony
mieux, je serais très
Royce.
Content.
Je rappelle que Tony, une Coupe du Monde, je ne sais même pas s'il en a joué une de Coupe du Monde, Tony, parce qu'il était blessé, parce qu'il n'y a pas de comme ça. Ouais. Tu te rends compte, il a encore 10 ou 12 ans de carrière, Pierrot. Il peut faire 3 euros, 3 Coupes du Monde et 3 Olympiades.
Ok, mais il ne faut pas rater les JO 2028 quand même. Il ne faut pas les rater quand même, ce serait dommage.
C'est-à-dire.
Il ne faudrait pas ne pas se qualifier quand même, ce serait dommage quand même.
Après, s'il est là et qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous et qu'on n'est pas dans les deux meilleures nations et qu'on est obligé de passer par
Tokyo, pour, bah ça, pour ça, le savoir, hein. Il faut qu'il soit là. C'est juste ce que je te dis. C'est
mais
tout.
Il sera là sur la deuxième fenêtre.
Ok.
C'est magnifique. Très bien. Et tu seras super content. Tu vas
on va y aller à la Coupe du Monde, Pierrot. Après la Coupe du Monde avec Victor, tu peux perdre contre des équipes qui sont meilleures que toi.
Très bien, mais là, c'est pas le débat qu'on est en train de faire. S'il est là et qu'on finit cinquième, c'est comme ça.
Maintenant, tu ne tapes pas dessus encore.
Il a pas réussi à nous faire aller plus haut et tout ça, mais bien sûr.
Pas du tout. Allez, on passe à la suite. On a un peu dérivé, hein.
Ouais.
On a changé d'objet de, du quiz du podcast, puisque je vous rappelle qu'on est sur un spécial play-off. Donc, la partie historique, vous allez mettre en avant une sous-performance d'un mec qu'on attendait très fort et qui n'est jamais arrivé. Alors, qui démarre?
Tiens, allez, Nico. J'y vais. Je voulais vous parler de Chris Paul. Paul qui, malgré tout, quand tu regardes les stats individuelles, c'est plus de 16 points en post-season. C'est un mec qui a été bon, mais c'est un mec qui a choqué très fort. Son palmarès, c'est 0 titre NBA, une seule finale avec Phoenix. Et il a quand même des ratés assez dingues. Ça commence en 2008 où il a 22 ans, il se prend une claque contre les Spurs. Il jouait à l'époque aux Hornets. T'as New Orleans qui gagne 56 matchs dans la saison. Il mène 2-0 contre les Spurs. Et puis là, après, la série bascule. Première petite claque, mais là, tu te dis que lui, il a l'étoffe d'être un meneur Hall of Famer. En 2014, il y a le choc contre OKC quand il est avec les Clippers. Il y a
ne laisse pas déstabiliser par les grimaces.
Le mec, il n'a qu'un ordi 17 pouces et il lit un truc sur son téléphone.
Je me suis mis des notes dans le téléphone hier soir. Non, mais c'est fou ça. On n'a pas le droit d'avoir une vie privée.
Tranquille.
Non, mais c'est dingue ça. Donc, il y a cette claque contre les Clippers en 2014. Et puis, il y a l'effondrement contre Houston en 2015. C'est peut-être la plus grande remontada de l'histoire des playoffs. En tout cas, une des remontadas les plus marquantes. T'as les Clippers qui mènent 3-1. Ils gagnent le match 6 de 19 points en troisième quart. À tel point que tu as le coach de Houston qui bench Harden en se disant c'est mort. Et là, il se mange une remontada de l'espace. Ils perdent ce match-là. T'as une blessure en 2018 contre les Warriors alors que Houston mène 3-2. Chris Paul là avait basculé avec les Rockets. Il mène 3-2. Pas de chance. Il se pète dans le Game 5 alors qu'il fait une super série. T'as le rêve brisé de la finale en 2021 avec Phoenix. Et en fait, à chaque fois, c'est un rendez-vous manqué avec les playoffs.
Chris Paul, choker ou pas choker, Steve et Fred?
Choker. Et malchanceux en plus. En fait, il a cumulé les deux. Il a été choker parfois et parfois
choker
il a été...
et malchanceux. Ouais. C'est le combo ultime, lui.
Ouais, choker et malchanceux. Après, tu peux aussi voir l'autre côté de la balance en disant que dans toutes les équipes où il est passé, ces équipes ont performé avec lui, ont mieux performé quand il était dans ces équipes-là. À Phoenix, quand il y a cette finale NBA, elle n'est pas attendue, mais il est là aussi. Donc, écoute, il y a les pros Chris Paul qui vont te dire que malgré tout, il a fait des choses en play-off et d'autres qui te diront oui, mais il a fait des choses en play-off, mais quand ça comptait, il est souvent passé à côté. Écoute, voilà. Écoute, c'est la vie.
C'est l'histoire de sa carrière.
Exactement.
C'est Fred maintenant.
Alors moi, je vais vous parler d'un joueur qui a joué 846 matchs en NBA en 13 saisons, plus de 19 points de moyenne, 7,6 passes, deux fois All-Star, deux fois All-NBA. Un mec qui a même sa statue à taille réelle. Alors bon, c'est en Chine, mais peu importe. Il a quand même sa statue.
Yao Ming.
Non. Ben non.
Stéphane Marbury.
Donc quand même un joueur qui avait un potentiel incroyable, un meneur rapide, un meneur qui pouvait faire des choses incroyables en saison régulière. C'est-à-dire que j'ai voulu regarder tout ce qu'il avait fait, surtout les playoffs qu'il a fait. Déjà, il n'a passé qu'un seul premier tour. Et j'ai envie de prendre la saison 98.
Une seule fois, un seul tour.
Vraiment, ça a choqué beaucoup.
C'est pas ouf.
Et c'est surtout que ses stats ont été en baisse à chaque fois, notamment en 98, où sur la saison régulière, il tourne à 38 minutes, 18 points, presque 8,7 passes, 41% de réussite, 31% à 3 points. Il arrive les playoffs et là, il me joue plus. Il met moins de 14 points de moyenne. il est à 7,6 passes, mais par contre, c'est au niveau du pourcentage où ça baisse drastiquement. Moins 10%, 30,6% de réussite, 28% à 3 points. Il perd même 0,5 ballons de plus. En fait, il aura été muselé. Alors, il faut se rappeler contre qui il jouait quand même, hein, sur cette série. Contre les Sonics d'un certain Gary Payton qui l'a complètement éteint. Et donc, le match, cette série va jouer en 5 matchs.
Attention, il y a Fred qui prend le téléphone aussi.
Moi aussi, mais moi je vois rien.
C'est un bel outil, le téléphone. T'as bien raison.
Et donc, juste pour être certain de vous expliquer exactement comment s'est passée cette série, match 5, donc match décisif qui a lieu à Seattle, Marbury. 46 minutes, 7 points, à 2 sur 10, 1 sur 7 à 3 points, 8 passes, mais 5 ballons perdus, un match catastrophique à moins de 20% de réussite au shoot, complètement muselé par un Gary Payton qui l'aura complètement éteint. Et c'est vrai qu'on se rappellera beaucoup de ce genre de choke pour Stéphane Marbury, alors, qui ensuite fera une magnifique carrière en Chine, d'où sa statue.
Alors que Marbury a quand même une bonne image, je trouve. Il n'a pas trop une image de loser. Hein, non
ouais, honnêtement, je pense que son passage en Chine a fait beaucoup de bien.
Ouais, à New York, il n'est pas bon non plus.
Ouais, il n'est pas bon non plus. Enfin, j'ai voulu choisir une série, mais il y en avait quelques-unes.
Pourtant, c'était très prometteur quand il débarque à Minnesota avec Kevin Garnett. Le duo est explosif et excitant, mais le problème, c'est que c'est un beau gobeur de ballon, Marbury.
Ah oui, il aime le ballon. Qatar. Ouais.
Peut-être que Garnett l'a pas.
Bah, en même temps, j'imagine les discussions. Hein. Ça doit être hyper sympa.
Ils ont jamais dû faire de Scrabble ensemble, les deux.
Ah oui, à ce point-là. C'est pas juste un méchant, c'est un con.
Ah, mais c'est un débile profond.
Ça marche à tous les coups. Hein. Ouais, tu mets une pièce, c'est parti. Quoi.
Et à juste toi, pour l'anecdote, Joseph Gomis avait joué contre lui en Coupe du Monde et l'avait maîtrisé à l'époque. Voilà.
Bravo Joseph. À toi Steve.
Bravo Joseph. Écoute, moi c'est Tracy McGrady. C'est-à-dire que c'est un garçon qui, lorsqu'il était à son prime, alors son prime n'a pas duré très longtemps parce qu'à 27 ans, son prime est quasiment derrière lui, n'a jamais gagné un tour de play-off. Tracy McGrady, on est au début des années 2000. Il y a trois ailiers d'exception en termes de talent. Il y a Kobe Bryant, il y a LeBron James qui arrive en 2003. Il y a Tracy McGrady et c'est peut-être les trois meilleurs joueurs NBA par le talent. Tracy McGrady, 2m4, grand, félin, 1m de détente, un énorme scoreur. Il débarque à Toronto où il rejoint son cousin Vince Carter. Il fera trois saisons avant d'être tradé à Orlando. 4 saisons à Orlando, pas un seul tour de play-off passé. Alors les stats entre la saison régulière et les play-offs ne sont pas vraiment différentes. Elles sont même parfois meilleures, mais uniquement au scoring. Il faisait des cartons à plus de 30 points par match. Mais sur les
deux fois meilleur score de la Ligue.
Deux fois meilleur score de la Ligue. Alors sur ses campagnes avec Orlando, c'est 34, 31 et 32 points de moyenne en trois campagnes pour T-Mac, mais les pourcentages baissent comme Marbury. Il a 42% au tir et surtout, il ne fait pas gagner ses équipes. En 2002, ils affrontent Charlotte avec Baron Davis et David Wesley qui sont les deux meilleurs joueurs de Charlotte. C'est pas non plus, on n'est pas sur l'ogre des Hornets. Ils sont éliminés 3-1. En 2003, tu mènes 3-1 contre les Pistons, à la surprise générale, parce que les Pistons sont l'équipe qui ont terminé leader de la conférence Est. Tu mènes 3-1 et la patatras, T-Mac disparaît, 19 points au match 5, où Orlando mettra 67 points en tout, et 21 points au match 7 à 7 sur 22 au tir, effondrement de Tracy McGrady. Il est tradé à Houston pour former un binôme plutôt excitant avec Yao Ming. On s'en rappelle tous.
C'était un événement. Hein.
C'était un événement, T-Mac et l'association T-Mac Yao Ming, et là non plus ça marche pas. Pas une seule série de playoffs victorieuses. 2006, défaite au premier tour 4-3 contre Dallas. 10 sur 26 au tir pour T-Mac sur le match 7. 2007, défaite au premier tour contre Utah 4-3. 2008, défaite contre Utah encore 4-2. Systématiquement, sur ces matchs-là, sur ces séries-là, T-Mac a eu la possibilité de plier les séries. Il a fait un nombre incalculable de quatrième quart-temps où il est passé au travers en termes de pourcentage, des lancers francs loupés et des balles perdues. Et le drame, c'est qu'on arrive en 2008. Il a 27 ans seulement, mais son prime est passé à T-Mac. Des problèmes de blessure, on ne le reverra plus jamais en play-off avec son niveau All-Star. Encore une série de play-off perdue avec Atlanta à 32 ans où il joue que 15 minutes parce que c'est devenu un role player. Il aura dû attendre 33 ans pour gagner une série de play-offs avec les Spurs, mais c'est un joueur de bout de banc. Il ira même en finale avec les Spurs, mais il joue que 6 matchs sur l'entièreté des play-offs où il joue 6 minutes de moyenne. Et là, pas de chance, les Spurs perdront contre Miami en finale.
Je me souvenais même pas qu'il avait fini aux Spurs, celui-là.
Il y avait qui d'autre, il est sur le banc.
Il y avait qui d'autre dans l'équipe à Houston avec T-Mac et Yao Ming?
Il y avait
Houston 2006-2007 ou en 2008.
Vous vous souvenez pas, c'est pas grave.
Hein. On va le dire.
Hey, on fait comme si j'avais rien dit.
Non, allez, on va le faire.
Il y avait Shane Battier.
Très bon joueur.
Bravo.
Il y avait Mutombo.
Il y avait Dikembe, il y avait Joanne Howard, Bonzi Wells.
Et Vassilis Panoulis dans le roster.
Et Rafer Alston aussi.
Rafer Alston, qui n'est pas mauvais lui.
Ouais, mais c'est une équipe correcte. Ils n'ont pas gagné un match, ils n'ont pas gagné une série.
Bravo. Après, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble avec Yao.
Non,
il y en a rien
qui est toujours blessé.
En fait, Yao, dans l'accouplement qu'ils ont fait entre un grand joueur chinois et une grande joueuse chinoise, ils ont fait. C'était, on est au courant de cette histoire. À l'époque, la Chine faisait s'accoupler des grands pour avoir des grands gabarits. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas étudié le pied, en fait. Il y avait pied défaillant sur l'accouplement.
Allez, on finit avec le quiz.
Et dis-moi le contraire, prove me wrong.
Non, mais je viens de te dire que c'est exactement ça, t'as raison. Ok, et wrong, tu peux wrong. Dire mieux que ça quand même.
Prove me wrong. Essaye, vas-y.
Il est compliqué, wrong.
Non, wrong.
Wrong,
non, pas wrong. Wrong,
wrong. Wrong.
Mais toi, tu dis wrong.
Non, wrong. C'est lui qui dit wrong.
Alors, si tu continues, je vais vous refaire une question de prononciation.
Vas-y, moi je suis chaud.
Ok, alors, la semaine prochaine, je vous le fais, c'est promis.
Je suis pas là.
C'est vrai que je suis chiant avec toi, des fois.
Parfois. Non, tu, à chaque fois. Et il me vient une autre expression en anglaise, là.
Non.
Ça commence par Mother.
Non, pas quand même. Oh, exagère rien. Nous allons faire un blind test sur la bagarre, évidemment, après le coup de coude de Victor. Premier extrait. Everybody was
kung fu. Kung fu. Silo Green. Silo Green. Mars Barclay.
Le problème, c'est que l'artiste est inconnu.
Si, c'est Silo.
Carl Douglas.
C'est Carl Douglas.
Ouais, c'est sûr. Ça, je savais, mais je ne me rappelle plus.
Alors, deuxième extrait.
Street Fighter. Bravo. Mais j'ai raté mon bac à cause de ça.
C'est sur les jeux vidéo, là.
Mais ouais, tu l'as pelé le jeu, Nico. Tu l'as pelé, quoi. T'as gagné tous les niveaux avec tous les combattants.
FIFA, Touquet. Et ma maman, c'est elle m'écoute. J'ai raté mon bac.
Are you again? Est-ce que t'es le genre de mec à finir le jeu avec chaque personnage?
Franchement, ouais, un peu. Le Street Fighter, je l'ai vraiment poncé. Vraiment, mais.
C'était un jeu de ouf à l'époque.
Ah ouais, j'ai pas joué avec
Dalsim. Dalsim.
Ouais.
Dalsim, c'est Victor un peu.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait le Sumo aussi qui faisait comme ça.
Bon, bravo. Donc c'est Steve le point. Troisième extrait.
Rocky Balboa. Eye of the Tiger.
James Brown.
Non,
non, c'est Eye of the Tiger. Je sais plus.
C'est dur, mais vous pouvez le trouver. Parce qu'en fait, ils ont fait que ça.
Hein? Europe.
Non.
Ah.
Eye of the Tiger, c'est.
Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas.
Survivor.
Oh, là, là.
Ok, on passe à la culture générale.
Ah oui.
Pour Fred.
Sur la bagarre ?
Alors, pas sur la bagarre, pardon. Sur le Thunder. Vrai ou faux ?
C'est un truc de météo, ça ?
Que faut-il faire pour se protéger du tonnerre ? Comme ça, on va apprendre aux gens aussi, donner des bons réflexes en cas d'orage. Que faut-il faire ou ne pas faire ?
Ok.
On démarre avec Steve. Se mettre sous un arbre.
Ne pas faire.
Nico, s'accroupir.
Faire ?
Oui, il faut s'accroupir, se faire tout petit.
Bah Nico, il reste debout.
J'avais jamais eu besoin de ça.
Fred, se coller à une paroi.
À une paroi ?
Ouais.
Ne pas faire.
Steve, s'éloigner des objets métalliques.
Faire ?
Il faut le faire, oui, absolument. Ensuite, s'isoler du sol, Nico.
Sauter quoi ? Bah si tu dois t'accroupir, t'es quand même collé. Je sais pas, ne pas faire.
Si, il faut trouver une matière isolante, justement.
Une voiture.
Tu peux même te foutre sur ton sac à dos, s'il faut. Redonner, oui, tout à fait.
Ouais.
Pour éviter la conduction avec le sol. Fred, s'abriter sous un surplomb.
C'est quoi un surplomb ?
Un surplomb, c'est genre un.
Un toit ?
Un surplomb comme un balcon, par exemple. C'est un surplomb, un balcon. Tu vois.
Bah, il faut pas faire.
Il faut pas faire. Bravo, Fred. Fred est très raisonnable, ce mec. 3 points pour Steve, 2 points pour Fred.
Je suis 2017, donc quoi qu'il arrive, moi, je vais être chopé.
On révise nos coups de coude, ok, et on va faire une boucle ensuite en partant de là et en retournant là.
On révise nos coups de coude, j'avais jamais entendu.
On révise nos coups de coude célèbres en NBA. Qui a assommé Harden d'un coup de coude en 2012?
Ron Artest.
Ouais, c'est ça, bravo.
Avec les Lakers, il met un panier, après désingue tout le monde.
Il a assommé le pauvre Harden. Alors, Ron Artest, dans quelle franchise a-t-il passé le plus de temps?
Lakers.
Non.
Le plus de temps.
Les Pacers, absolument. 4 saisons et demi.
Une question.
Le plus de temps.
J'ai compris le plus de tours.
Plus de temps. Alors, les Pacers, donc. En 2017, Paul George est échangé à OKC par Indiana contre quel joueur
chez.
Au pluriel
chez déjà. Ah, contre Indiana
Indiana, il va où
Indiana. Il va de Indiana à OKC.
Chris Paul.
Non. Alors, c'est deux joueurs assez connus.
Ah ouais.
Un qui est toujours là, un qui a disparu de la circulation, mais qui avait fait une énorme saison avec Indiana suite à cet échange.
Roy Hibbert ?
Non.
Ah ouais, c'était pas mal ça.
Wow. Je l'ai pas, oui. Bah, c'est si. Ok, ici, il est...
À Indiana, un mec qui a fait une saison wonder et qui ensuite, je sais même pas où il est aujourd'hui. Je vais regarder où il est aujourd'hui, je vais vous donner l'indice. Okay.
Merde. Il joue encore là.
Je suis pas,
c'est celui-là qui joue encore.
Donc l'autre joue encore.
Ou c'est ah, l'autre qui joue encore.
Pas,
l'autre joue
Indiana, encore. Il y a un OKC et un OKC à l'époque.
C'est... Alors, c'est qui il y en a,
Serge...
il y a...
Non.
Hein, qu'est-ce que tu allais dire
Serge Ibaka, non.
Non. Alors, il joue actuellement au Guangzhou Lions.
Ah ouais, super. Super, frère. Merci.
Après Indiana, il, a été...
Benny Granger.
Il est allé aux Rockets à Miami.
Oladipo.
Oladipo, ah ouais, bravo Nico. Bravo. Je lui donne deux points.
Parce que ah, mais c'est qui le deuxième ?
Et le deuxième, c'est qui ? Le deuxième, il est là, hein, il est présent.
Hein. Il joue beaucoup.
Ah, il n'a pas fait la fin de saison, par contre, parce que son équipe, elle a dit non, bon, en fait, t'es blessé.
Yanis, bah non, t'es blessé.
Ouais, bon, va, je ne joue pas, va pas te faire mal, va, on a un grand français là qui va faire la maille là, à ta place.
Sabonis ?
Sabonis.
Ah ouais.
Ils ont échangé donc Paul George contre Oladipo et Domantas Sabonis. C'était un bon move pour personne.
personne. Si, parce que Paul George et OKC, c'est correct.
Oui.
Ok, donc c'est un bon move pour OKC. Donc alors, Domantas Sabonis, nous allons faire un Domantas ou Arvidas. Les deux ou aucun des deux. Ok. Donc les quatre réponses possibles, Nico, mais tu n'en donnes qu'une. Ouais. Chacun votre tour, Domantas, Arvidas, les deux ou aucun des deux. C'est pour toi, Fred. Aucune raison de te choquer, là. Steve, j'ai la nationalité américaine.
J'ai la nationalité américaine, je pense que c'est Domantas Sabonis.
Ouais. En fait, c'était un piège parce que je pensais qu'aucun des deux l'avait, mais il l'a.
Oui, il l'a. Ah,
j'ai vérifié.
Pour ça que le padre allait naturaliser.
Nico, j'ai joué en Espagne.
Le père ?
Les deux.
Les deux.
Bravo, ah
Fred,
là
mais
là
c'est pas pour toi. Fred, en NBA, j'ai toujours tourné à plus de 10 points de moyenne par saison. Toutes mes saisons. Arvidas, Domantas, les deux ou aucun des deux ?
Domantas ?
Aucun des deux. Okay. Domantas, une première saison à 5,9.
Ouais, ça, j'imagine.
Steve, son film préféré, Top Gun.
Sérieux ?
Ouais, tu dois le savoir.
Son film préféré, c'est
ouais,
Top Gun.
Le savoir.
Top Gun. Alors le premier Top Gun, il sort très tôt. Je suis pas sûr que Domantas ait l'âge pour avoir connu ça, donc je vais
dire. Ça veut rien dire ça.
Oui,
ça veut rien dire.
Oui, ça veut rien dire.
Film culte.
C'est un film culte.
Un film de merde, mais un film culte quand même.
Je vais quand même dire Arvidas.
Oui, c'est la bonne réponse.
Il essaie de m'emmener. Il essaie de m'emmener dans le mur.
Ah Nico, j'ai joué contre Kobe Bryant.
Les deux.
Alors non. Alors non. Parce que Domantas a démarré quand Kobe a arrêté.
J'hésitais en plus là, je savais que Domantas.
Et enfin, Fred, dans le top 15 des joueurs ayant le plus de triple-double en carrière.
Domantas.
Absolument. Il est 11e.
Ouais. Il en fait beaucoup.
À un triple-double de Larry Bird.
Mais ils l'ont appelé souvent mini Jokic.
Hein. Oui.
Donc ça fait 7 points pour Steve, 3 pour Nico et 4 pour Fred. Donc dans ce classement des triple-doubles en carrière, Westbrook est premier évidemment, Oscar Robertson est deuxième, mais qui est troisième ?
Nikola Jokic ?
Non.
Luka Doncic ?
Non.
Westbrook ? Westbrook tu l'as dit.
Non.
LeBron James ?
Ouais.
Non.
J'allais dire LeBron.
Jokic est quatrième pour info, avec 130 triple-doubles. Et troisième devant Jokic avec 138 triples.
Magic
évidemment. Ouais, Fred, il a réfléchi, bravo. il s'est pas précipité, bravo. Donc qui a déclaré tous les scénarios puisque Jokic est quatrième, tous les scénarios seront sur la table sauf un transfert de Nicolas.
Adelman.
Non. C'est pas facile, c'est même difficile.
Kiki Van de Veeg.
Non. Tous les scénarios seront sur
c'est
la table cet été.
C'est un...
Non, c'est un dirigeant. Sauf un transfert de Nicolas.
C'est pas du tout de Jokic dont on parle.
Non.
Si.
C'est du Jokic dont on parle. D'accord.
C'est le président des Nuggets.
Alors c'est un dirigeant des Nuggets.
Waouh, le front office. Alors là, je l'ai pas du tout.
Alors c'est Josh Kroenke, le fils de Stan Kroenke. Ouais. Et vous auriez pu me parler de Stan Kroenke, j'aurais accepté la réponse. Ouais, alors Stan Kroenke.
Tellement de ouf.
L'une des personnes les plus riches du monde, propriétaire des Nuggets. Propriétaire des Rams de Los Angeles, propriétaire de deux autres franchises en Amérique du Nord.
Ça passe bien pour lui, non ?
Et propriétaire d'un club de première ligue. Lequel ?
Arsenal ?
Everton.
Bravo, Fred.
T'as dit au hasard.
Comme
t'as
ça.
Du hasard,
c'est fou. Incroyable. La chance du champion.
Ah ouais, là.
Très bien. Bravo. En première ligue, qui est le rival Oni d'Arsenal?
Tottenham.
Tottenham, Nico. Et enfin, quel double MVP et supporter de Tottenham?
Steve Nash.
Yannis.
Wow, Steve Nash. Ouais, bien joué.
Ça fait 8, bon,
8 pour Steve, 4 pour Nico, 6 pour Fred. Quelle franchise Steve Nash a-t-il le plus affronté dans sa carrière en play-off?
Les Spurs.
Les Spurs, ouais.
Qui a dit les Spurs?
C'est moi.
Non. Ah, je pense que c'est Steve.
C'est les Spurs de très très loin. Presque 40 matchs. 37 exactement. Aux Spurs, qui détient le record de points en un match?
Kawhi.
Non.
Duncan.
Non.
David Robinson.
Robinson. 70.
71 David Robinson. Je crois que c'est Steve en premier. Ok, ça fait 10 points pour Steve. Et donc, on boucle la boucle. Qui a ouvert l'arcade sourcilière de Robinson sur un coup de coude en 1998?
Rodman.
Non.
Karim Abdul-Jabbar.
Non.
Ben Wallace.
Bill Laimbeer.
Non.
Qui a ouvert la carte sourcilière de David Robinson? Pam. En quelle année?
En 98, dans une série.
Shaq.
Michael Jordan.
Non.
Scottie Pippen.
Non.
Dikembe Mutombo.
Mutombo, ouais.
Non. C'est une franchise vraiment de ces années-là, hein, vraiment. C'est vraiment là.
Rachid Wallace.
À part les Bulls, c'est la franchise de ces années.
Ben Wallace.
Non.
Dennis Rodman.
Non, 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 c'est pas la bonne franchise.
C'est pas les Pistons?
C'est à l'Est ou à l'Ouest?
98, bah c'est à l'Ouest.
Ah,
c'est les Sonics?
Non. 98.
James Worthy?
Non. Ah, c'est marrant. Vous l'avez pas vu cette image? Il est KO, il tombe comme un chiffon, Robinson.
Non.
Quelle franchise a marqué la fin des années 90? Qui s'est fait martyriser par les Bulls? Par les Bulls.
À qui vous l'adjouant?
Les Lakers?
Non.
Les Rockets?
Le Jazz?
Ah, Karl Malone?
Karl Malone. Ah, non, vous n'avez pas vu cette image?
Non.
Ah, il met un coup, l'image n'est pas spectaculaire, mais il tombe de tout son haut, là, ouais. Il s'étale par terre. Bon, je donne le point à Steve.
Non, je ne vais pas le prendre, je vais le prendre.
Il a déjà gagné, attends.
Non, il n'a pas du tout déjà gagné. Puisque voici la question Mesmer.
C'est pas fini,
le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, ah, putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux pas me séparer.
T'as trouvé ça où, toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi?
Voici la question Mesmer
avec RMC.
Alors, Domantas Sabonis, est-il un grand joueur?
Oui.
Ah, vas-y, démarre, Nico.
Attends, c'est quoi le but de la question Mesmer?
Il faut que tu penses comme moi.
Mais en pensant comme toi, quand même.
Alors, Domantas Sabonis, c'est un grand joueur, tout simplement parce qu'il mesure plus de 2m10. Voilà. ça peut être un raisonnement à la Pierre Dorian.
Ça peut être un raisonnement à la Pierre Dorian. C'est tout?
Ouais, okay. Je m'arrête là. Okay, je pense que t'es pas allé plus loin.
Très bien. Fred?
J'espère sincèrement que t'es allé plus loin. Nico ne sent rien, c'est normal qu'il s'arrête là. Je pense que c'est pas un grand joueur. C'est un joueur de statistiques, c'est une machine à stats. C'est un joueur capable de faire des triples-doubles, de les enchaîner, mais il est incapable de faire gagner son équipe. Donc pour moi, je pense que tu considères que c'est pas un grand joueur. D'accord. Et je suis assez d'accord avec toi.
Okay.
C'est pas son père.
Stephen?
Je vais dire non. C'est un bon joueur de basket. Fred le dit, c'est une machine à stats. Mais ne pèse jamais sur les résultats de son équipe. Ça n'a jamais été un go-to guy. Et puis, pour ajouter à ça, c'est que quand il vient avec la Lituanie, il n'est pas du tout dominant dans le jeu européen. Valančiūnas est bien meilleur que lui avec la Lituanie que Domantas Sabonis, parce que c'est un garçon qui est formaté basket américain, passé par Gonzaga, et qu'en Europe, il est souvent en grande souffrance. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon joueur de basket, mais ce n'est pas un grand joueur.
Alors, j'accorde le point à Stephen et à Fred, parce que moi, j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre de Sabonis, c'est bon.
D'accord.
Les stats qui servent à rien, c'est à un moment. Bon.
T'es pas allé beaucoup plus loin non plus que. Hein.
Tu sais quoi, t'aurais eu le point si les autres m'avaient dit oui. Parce que il est grand, il fait 2m10, je t'accorde le point. Parce que de ce point de vue-là, t'as pas complètement tort, il fait 2m10, il est grand. Mais... Non, mais bon joueur, mais bon, à un moment.
L'état
de Sacramento catastrophique.
Ouais, mais il peut pas être responsable de l'état de Kings
quand même. À un moment, faut que tu sois impactant quand même quand t'es un grand joueur, non? Non?
Je sais pas.
Vous voulez faire la question multipoint ou c'est pas la peine? On donne le titre à Steve.
Ça dépend, c'est quoi?
C'est les meilleurs marqueurs européens en NBA.
Ah
voilà,
ouais,
tout
c'est bien ça. C'est bien ça.
Allez, non. Vas-y. Allez, vas-y. On enchaîne. C'est Nico qui parle
les
premier.
Les meilleurs marqueurs européens, c'est-à-dire il y a un classement? Il y a les 10 premiers, les quoi?
Les 10 premiers.
Les 10 premiers?
Ah, les 10 premiers, parce que sinon, on peut dire.
Attends, sur quoi? Sur quoi? Sur une saison régulière? Sur des playoffs?
Non,
sur
une carrière.
Yanis.
Yanis, c'est bon. Quatrième. Ensuite, Fred.
Pau Gasol.
Gasol, oui, c'est bon. Steve. Ah oui, allez dire que voilà. C'est bon. Nico.
Tipeee.
Tipeee, bien sûr, évidemment. Heureusement que c'est Malaisie, Tipeee. Fred.
Luca.
Luca, oui, bravo. Steve.
Nikola Jokic.
Nikola Jokic, absolument. Donc vous êtes tous à 2 points, donc il en reste 4. Et c'est pas les mieux classés. Et donc ça va devenir difficile, voire très difficile.
Voire très difficile.
Ouais, enfin, pas évident, on va dire.
Je vais tenter un. Ah, c'est si je. Ouais, ça, c'est un peu. Un Goran Dragic.
Non. Fred.
Je vais tenter un Detlef Schrempf.
Excellent.
Bravo.
Dixième.
Il a volé ce connard.
Ah oui, il y a un connard qui est parti. Ouais, gratuitement, là.
Très objectivement. Très objectivement. Si ça avait été l'inverse, j'aurais dit la même chose.
Ok, Steve.
Je vais tenter un garçon. J'espère qu'il y est. En tout cas, il a été champion NBA avec Dirk. Donc pour ça, à tout mon respect, je vais tenter Peja Stojakovic.
Non.
Fuck.
Fred. Vas-y, si tu trouves les trois, t'as gagné.
Ouais, les trois, carrément. Tony Kukoc.
Non, bah non. Il y avait Serge Ibaka.
Marc Gasol.
Rick Smits et Vlade Divac.
Rick
Smits, t'as honte?
Ouais.
Pourquoi?
Bah parce que c'est un joueur très très grand.
C'est le même profil que Fred.
Ouais, un peu.
Bravo, Steve, à la semaine prochaine.
Merci, Pierre.
À la semaine prochaine. Basket Time.